Après le labour, il a fallu semer. Et là,
elle conservait de cette nouvelle épreuve l'humiliation qu'elle avait éprouvée lorsqu'elle s'était trouvée en face du labour, son sac de grains sur le ventre. Certes, ayant maintes fois vu comment son père, et aussi Jean, pour ne pas passer deux fois au même endroit, prenait soin de jalonner le champ à l'aide de quelques branchettes de chêne ou de genévrier, elle avait agi de même. Mais, cela fait, était venue l'épreuve. Examen d'autant plus redoutable qu'elle sentait derrière elle la présence de sa belle-mère. Celle-ci avait tenu à conduire les vaches tirant le tombereau sur lequel était posé le sac de blé. Marthe avait tout de suite compris que cette démarche avait pour seul but de la voir dans l'embarras et, pour Octavine, de prendre la revanche qu'elle méditait depuis l'histoire du Brabant.
« Vous savez semer, au moins ?»
lui avait-elle demandé, en voyant son hésitation à puiser les grains dans le sac, main après l'autre, et à les lancer devant elle en rythmant ses gestes sur sa marche.
« Non, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai vu semer mon père, et Jean aussi. Alors ?»
Alors, eh bien, ma pauvre petite, vous allez voir la différence qu'il y a entre voir et savoir. Allez, moi aussi je veux voir. C'est bien mon tour de rire un peu. »
Marthe avait commencé en avançant de quelques pas et en essayant de projeter le blé loin devant elle, tout en le répartissant en un demi-cercle parfait, régulier. Mais la pratique lui faisait défaut.
Ah ah, c'est du joli, c'est magnifique. Jean sera tout content de voir ce gâchis quand il reviendra. Ah, c'est beau. Attendez un peu que ça germe et nous allons rire. Ou plutôt non, ça va nous faire honte quand les voisines verront cette horreur,
avait triomphé Octavine. Marthe avait alors fait demi-tour et s'était avancée vers elle.
Dites, si ça vous fait en rire et si ça ne vous va pas, faites-le à ma place, si toutefois vous savez faire.
Moi ? Savoir semer ? Mais ma pauvre petite, si j'avais autant de louis que j'ai semé de poignées de froment, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais la plus riche de tout Limousin. Je savais tenir la ferme en tout quand vous étiez encore votre mère. J'étais veuve, moi. Et vous osez me demander si je sais semer ?
Eh bien, apprenez-moi, je vous écoute.
Il ferait beau voir. C'est à vous que Jean a préféré confier la ferme, pas à moi. Alors débrouillez-vous, puisque vous êtes si finaude. Moi, j'ai affaire ailleurs.
Allez-y, ça me reposera. Mais n'oubliez pas que j'aurai besoin de vous pour hercer, que ça vous plaise ou non.
Hercer ? Bien sûr, mais avant, il vous faudra tout emblaver. Et parti comme vous l'êtes, ça va être long.
Portez pas peine, j'y arriverai,
avait promis Marthe en revenant dans le labour. Là, après avoir réfléchi et bien calculé, et surtout sans tenir compte des ricanements qui fusaient dans son dos, elle s'était entraînée quelques instants. Peu après, grâce à cette sorte de mime qui lui faisait plonger les mains dans le sac de grain sans en prendre, tout en équilibrant ses pas sur le geste du lancement, elle avait trouvé la technique. Et quand elle était revenue à son point de départ, pour ensemencer vraiment, Octavine, vexée, avait déjà disparu. Cette saison-là, elle avait semé tous les champs qui devaient l'être.
« Oui, ce n'était pas comme maintenant, »
soupira-t-elle en se versant une demi-tasse de tisane.
« Je n'avais pas l'habitude, c'était la première fois, et il faut bien dire qu'Octavine ne m'a pas aidé. Depuis, j'ai refait deux autres saisons de labour, de semis, de herçage, de fenaison et de moisson. De tout. J'ai même entretenu la vigne et fait les vendanges. J'ai tout fait et du mieux que j'ai pu. Et pour la première année, quand Jean est revenu, il a tout de suite vu que les moissons étaient belles et les terres bien entretenues. Le pauvre, il était dans un tel état qu'il n'aurait plus manqué qu'il retrouve tout en friche. Il ne s'en serait pas remis. Dieu qu'il était fatigué et désespéré. À bout,
se souvint-elle avec émotion. Car malgré son désir d'occulter ses trop sentimentaux, donc dangereux souvenirs, elle ne put s'empêcher de se remémorer ce premier soir où, malgré toute son énergie, sa volonté, elle avait failli pleurer de dépit et de tristesse en réalisant que Jean, après presque un an de séparation, doutait pouvoir l'aimer comme elle l'espérait, l'attendait depuis 11 mois. Elle avait dû faire front, comme toujours, avec toute sa volonté et son courage, toutes ses armes, et cet amour qui la poussait à secourir le pauvre homme démoralisé, cassé, qu'il était devenu. Un homme brisé par la guerre, et qui, lui aussi, ne devait qu'à sa seule volonté de ne pas se mettre à sangloter comme un enfant perdu. Plus tard, après le retour au front de Jean et d'Édouard, elle avait été étonnée d'apprendre à demi-mot, mais sourires éloquents, que Francette avait elle aussi retrouvé son homme en très piteux état, mais qu'elle n'avait pas osé faire preuve d'initiative.
« Le premier soir, j'ai eu peur.
Si, si, j'ai cru qu'il ne pourrait plus jamais. »
Heureusement, les soirs d'après, une fois bien reposé, crois-moi, il s'est rattrapé,
avait-elle dit avec nostalgie.
J'ai même craint qu'il me fasse un petit de plus. Par chance, depuis qu'il a son fils, il est devenu sérieux. Enfin, façon de parler.
Il était vrai que Jean aussi s'était révélé comme un insatiable et très audacieux amant, mais aussi comme un homme perdu, qui sent sa noyade proche et qui s'accroche de toutes ses forces à cette douceur qui est là, à ses côtés, à ce corps qui se donne avec bonheur et qui peut-être le sauvera du néant.
Mais je n'allais pas raconter tout ça à cette pauvre Francette. Ça ne regardait que Jean et moi,
songea-t-elle en s'efforçant de pousser ses souvenirs vers d'autres directions, car même Francette, son amie, pouvait elle aussi devenir source de chagrin.
À propos d'amour, mieux vaut penser aux balivernes que nous avait sorties ce pauvre abbé Martin peu avant la permission de Jean,
se souvint-elle. Et à cette évocation, elle se surprit presque à sourire. Depuis octobre 14, et pour remplacer le curé Fraisse, la paroisse était tenue par un vieil ecclésiastique, l'abbé Martin. Un honnête et brave homme au demeurant, dont le seul handicap, outre son grand âge et une surdité avancée, était de n'avoir jamais eu d'autres ouailles que des citadins. Des brivistes du centre-ville, beaucoup plus bourgeois qu'ouvriers, et dont les épouses, ses dévotes et fidèles paroissiennes, étaient aux petits soins pour lui, très attentives à ses bons conseils et à ses prêches toujours édifiants. Aussi, dès son arrivée à Costeblanc, avait-il eu quelques difficultés à admettre que beaucoup de femmes de la commune, surchargées de travail comme elles l'étaient en l'absence des hommes, ne pouvaient assister à la messe du dimanche avec autant d'assiduité qu'ils le souhaitaient. Mais en ce dimanche 13 juin, sans doute parce qu'il pleuvait depuis plusieurs jours et qu'il était donc impossible d'aller faucher, de nombreuses femmes de tous âges se pressaient à la messe de 10 heures. Un peu perdues dans des pensées très terre-à-terre qui n'avaient rien à voir avec le prône que venait de commencer l'abbé, Marthe avait mis quelques secondes avant de réaliser que le prêtre parlait des femmes, et principalement des épouses. Sans doute très gênée d'avoir à aborder un sujet aussi scabreux, mais à l'entendre, toutes les églises de France devaient résonner des mêmes recommandations, car elles émanaient de la plus haute hiérarchie, le pauvre homme s'était fourvoyé dans des circonlocutions tellement alambiquées et absconses qu'il avait vite compris que son auditoire ne comprenait goutte à ses propos. Alors, presque rougissant, mais désireux d'aller jusqu'au bout de son exhortation, il avait fini par lâcher
« Mesdames, vous le savez, la France souffre beaucoup. Des hommes tombent tous les jours. Des centaines de milliers manquent déjà à l'appel. Il vous est donc un devoir patriotique et de chrétienne, de les remplacer en faisant autant d'enfants de petits Français qu'il est possible.
Amen. » Marthe avait jugé ses propos pour le moins étranges, car autour d'elle se trouvaient surtout des femmes d'âge canonique, comme sa belle-mère, ou des plus jeunes comme elle et sa voisine Francette. Mais celles-là étaient soit veuves de guerre, et il y en avait déjà 10 dans la commune, et soit privées de leur conjoint retenu au front. Et c'était d'ailleurs ce qu'avait dû aussi déduire Francette, qui, au bord du fou rire, lui avait chuchoté
« Et avec qui il veut qu'on les fasse, ces gamins ? Pas avec lui, quand même !»«
Tu me diras, s'il obtient une permission pour Édouard, parole, je suis prête à me mettre au lit et à y rester le temps qu'il faudra. »
Et Marthe avait failli pouffer.
C'est bien loin tout ça,
pensa-t-elle en tendant une fois de plus son tricot à bout de bras pour en jauger l'avance.
Ce pauvre curé Martin, ce n'est pas un méchant homme, mais